Chapitre 29 à 32 Ézéchias. Chapitre 29 La purification. Ce chapitre et les suivants font ressortir le caractère des chroniques comparé à celui du livre des rois. Ce dernier, en effet, ne parle pas du rétablissement du culte, de la purification du temple, de la réorganisation de la sacrificature lévitique. Les chroniques, au contraire, les présentent comme seule condition selon laquelle la royauté des fils de David, et Juda même, comme peuple, pouvait subsister. Aussi, dans les chroniques, le jugement est arrêté, ou suspendu, à chaque rétablissement du culte, même après que le règne d'Akaz semble avoir enlevé à la grâce toute possibilité de continuer ses voies envers Juda et la maison de David. De ce qui est contenu entre le verset 3 du chapitre 29 et le verset 19 du chapitre 31, nous ne trouvons pas un seul mot dans le livre des rois. Ce dernier s'étend, beaucoup plus que les chroniques, sur les attaques du roi d'Assyrie, qui, dans le livre des rois, ont une portée considérable au point de vue prophétique. Un trait plus saillant encore, c'est que les chroniques n'ont pas un seul mot sur la prise de Samarie par Shalmanézer et la transportation des 10 tribus à Colac, en un mot, sur la réjection définitive d'Éphraïm. Que pouvait-il en effet en être dit ici? Dès le début, l'histoire des 10 tribus avait été caractérisée par l'abandon des relations avec Dieu et de son culte pour y substituer des idoles. Selon le principe des chroniques, cet état de choses était, dès son origine, condamné sans rémission. Pas un seul moment, Dieu n'avait pu dire d'Israël ce qu'il disait de Juda. Il y avait en Juda de bonnes choses. Le règne d'Ézéchias n'est donc pas opposé ici à l'état du royaume d'Israël, d'autant plus que, comme nous l'avons vu dans le chapitre précédent, on trouvait, pendant le règne d'Akaz, plus de foi et d'obéissance en Israël qu'en Juda. Dieu fait ressortir ici le contraste entre le règne d'Ézéchias et celui d'Akaz. Si la grâce de Dieu n'avait eu en vue ses promesses et leur accomplissement dans l'avenir, c'en était fait de Juda à ce moment-là. Le culte de l'Éternel aboli, les portes du temple fermées, ôtaient à Juda toute raison de subsister comme peuple de Dieu. Ézéchias est suscité. Aussitôt tout change. Aux profondes ténèbres succède tout à coup la lumière qui rayonne du sanctuaire par ses portes ouvertes. La première année de son règne, au premier mois, Ézéchias ouvrit les portes de la maison de l'Éternel et les répara. Verset 3. Alors il assembla les sacrificateurs et les lévites, et lui, dont le père avait commis ces abominations, sans enfreindre le commandement, « Honore ton père », confessa hautement le péché commis. Nos pères ont été infidèles et ont fait ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel, notre Dieu, et l'ont abandonné, et ont détourné leur face de la demeure de l'Éternel et lui ont tourné le dos. Verset 6. Ce reniement de Dieu avait eu pour conséquence la colère, la destruction, l'épée, la captivité. Verset 8 et 9. Mais combien devait être terrible l'état qui avait nécessité de pareils jugements? Ils ont fermé les portes du portique. Plus d'entrée en la présence de Dieu pour lui rendre culte. Ils ont éteint les lampes. Nuit profonde là où les 7 lampes de l'Esprit auraient dû répandre leur pleine lumière. Ils n'ont pas fait fumer l'encens. Plus d'intercession devant l'autel d'or ou devant le propitiatoire. Ils n'ont pas offert l'holocauste dans le lieu saint au Dieu d'Israël. Plus d'offrandes sur l'autel des reins pour rendre agréé celui qui s'approchait de Dieu. C'était, en un mot, l'abolition de tout le culte d'Israël. Et il y avait plus encore. Le sanctuaire lui-même, la demeure de Dieu au milieu de son peuple, était souillé. Versets 15 à 17. Il avait donc fallu que l'Éternel, qui patientait encore avant que sa gloire quittât toutes ses abominations, habitât au milieu de la souillure. Ah, combien Satan avait habilement réussi dans ses desseins. Bannir Dieu de devant les yeux du peuple, supprimer le peuple aux yeux de Dieu, qui ne pouvait tolérer une nation impure et idolâtre, ôter l'autel de l'expiation, seul moyen de renouer le lien avec l'Éternel, enlever au Messie futur sa gloire comme fils de David. L'ennemi semblait avoir définitivement atteint tout cela. mais ce dernier est encore une fois trompé dans son attente, comme il le sera toujours. Le Créateur de toutes choses montre qu'il peut aussi créer des cœurs pour sa gloire. Sa grâce se met à l'œuvre et produit Ézéchias. Quel zèle le Saint-Esprit allume dans le cœur de cet homme de Dieu. Sans perdre un seul jour, il entreprend son travail de purification et l'achève au 16e jour du mois. La première condition de ce travail était de se sanctifier soi-même. C'est ce que firent les Lévites, les sacrificateurs et les employés du sanctuaire. En effet, comment pouvaient-ils purifier quoi que ce soit s'ils étaient eux-mêmes souillés? Cette œuvre exigeait un soin minutieux. Aucune impureté, même la plus petite, ne pouvait être tolérée. Il fallait que les sacrificateurs puissent dire « Nous avons purifié toute la maison de l'Éternel ». Tous les ustensiles devaient être en état, et tout ce qu'Akaz avait rejeté pendant son règne coupable devait être sanctifié et placé devant l'autel, car l'eau ne suffisait pas, quoiqu'elle soit inséparable du sang de la victime, c'est-à-dire la purification inséparable de l'expiation. Après la purification du sanctuaire, on trouve le sacrifice pour le péché, versets 20 à 30. Il est offert, premièrement, pour le royaume, deuxièmement, pour le sanctuaire, troisièmement, pour Juda. La substance même de cette purification était l'aspersion du sang, et il en est de même pour nous. Le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Cette aspersion est faite sur l'autel des reins, seul lieu où Dieu et le pécheur se rencontrent, où Dieu puisse, du même coup, juger et abolir le péché. La purification s'étend, selon le désir et la pensée du roi, bien au-delà des limites de Juda, car le roi avait dit que l'holocauste et le sacrifice pour le péché seraient pour tout Israël. Verset 24. Ézéchias est le premier roi, depuis la division du royaume, qui désire que tout Israël purifié monte à Jérusalem pour y adorer. Si la déportation des 10 tribus avait eu lieu à ce moment-là, leur misérable reste aurait attiré de même la sympathie du cœur d'Ézéchias. Il avait le désir de voir Israël se reformer en unité autour du sanctuaire pour venir adorer Dieu à Jérusalem, et en cela, il représentait le caractère futur du roi des conseils de Dieu. La propitiation accomplie, il est possible d'offrir la louange à l'Éternel. Elle est rendue selon le commandement de David et de Gad, le voyant du roi, et de Nathan le prophète. Seulement il est ajouté que le commandement était de la part de l'Éternel par ses prophètes. Verset 25. Toujours dans cette période de l'histoire d'Israël, la prophétie occupe la première place pour diriger le peuple. Ensuite, les instruments de David sont employés et les trompettes des sacrificateurs annonçant une ère nouvelle retentissent au moment où commence l'Holocauste. L'Holocauste était l'offrande dans la bonne odeur de laquelle on était accepté et rendu agréable à Dieu. Comment, dans ce moment même, les instruments de la louange n'auraient-ils pas retenti tous ensemble? Le roi et ceux qui sont avec lui se prosternent, remplis de joie, et ordonnent aux Lévites de louer l'Éternel avec les paroles de David et d'Asaph, le voyant. En toute chose, on constate ici un retour strict à la parole inspirée de Dieu. Le sanctuaire, le royaume, la sacrificature, Juda, tout Israël, ayant été purifié par le sang du sacrifice, est désormais consacré à l'Éternel, verset 31, voir Exode 28, verset 41, Ézéchias les engage à s'approcher. On assiste presque à la scène décrite en Hébreux 10, versets 19 à 22, et qui est l'heureux résumé de toute l'Épître. Tous ces adorateurs sont acceptés de Dieu selon la valeur de l'Holocauste. Seulement, on voit ici combien ce service était défectueux et précisément du côté où l'on était en droit de l'attendre complet. Les sacrificateurs se trouvent être en petit nombre, et les Lévites doivent les remplacer pour écorcher les holocaustes, car les Lévites furent plus droits de cœur que les sacrificateurs pour se sanctifier. Verset 34. Ce fut précisément le contraire qui arriva dans les livres d'Esdras et de Néhémie. Là, les Lévites manquaient. De toute manière, que ce fût l'un ou l'autre, c'était un grand mal, et qui peut facilement s'appliquer au christianisme actuel. Ou bien les adorateurs, les sacrificateurs, sont en tout petit nombre, et la conséquence en est que les ministères, les lévites, occupent leur place et remplissent des fonctions qui, proprement, ne leur appartiennent pas. Ou bien, quand il y a quelque intelligence du culte, les adorateurs sont en grand nombre, tandis que les ministères montrent beaucoup d'indifférence à s'acquitter de leurs tâches. Et le service de la maison de l'Éternel fut rétabli. Et Ézéchias et tout le peuple se réjouirent de ce que Dieu avait disposé le peuple, car la chose fut faite soudainement. Verset 36. Ainsi, selon le précieux enseignement des Chroniques, c'était la grâce toute seule qui, par la puissante action du Saint-Esprit, avait préparé le roi et agi dans le cœur du peuple pour produire cette restauration.